Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom dwujęzyczny. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu.
Exercice 1. Lisez attentivement la consigne et l'exercice qui la suit.
Document A. Ce matin, Bernard, un vétérinaire pas comme les autres, est appelé pour un heureux événement. Un bébé tortue vient de naître. Il s'agit d'une cistude, une petite tortue qui vit dans nos eaux ici, dans le Gard. Alors vous voyez, à peine sont-elles sorties de leur œuf qu'elles essaient de se mettre à l'abri. C'est l'instinct qui leur dit ça, de se protéger d'un prédateur éventuel. Mais leur carapace n'est pas encore dure. Ainsi, dans la nature, sur 1000 pondus, un seul parvient à l'âge adulte et la cistude est une espèce en voie de disparition. Le rôle de Bernard est d'aider cette jeune tortue à survivre. Elle va passer quelque temps ici, au refuge Tortue Passion de Toulon. Document B.
Bienvenue à la Maison de la Pêche de Strasbourg, en Alsace. Je vais vous parler de la tortue de Floride. Cette espèce est classée nuisible. Elle mange de petits invertébrés et empêche d'autres tortues de se développer. Surtout, elle n'a rien à craindre car elle n'est pas chassée par d'autres animaux. En fait, souvent, certains vendeurs omettent de dire que cet animal domestique, importé d'Amérique, va considérablement grandir. Les gens qui ne peuvent pas s'en occuper les relâchent alors dans la nature, c'est un problème. Si vous ne pouvez pas vous occuper de votre tortue, il faut la donner à un centre de récupération. On ne lui fera pas de mal, mais elle passera le reste de ses jours dans un grand bassin, d'où elle ne risque pas de s'enfuir pour nuire à d'autres animaux.
Document C. Cette année, notre centre, l'aquarium de Cherbourg, a dû faire face à une situation pour le moins inhabituelle. En quelques semaines, nous avons dû accueillir un nombre anormalement élevé de tortues accidentées qui arrivaient les unes après les autres. Il s'agit souvent de tortues de mer heurtées par une hélice de bateau. Par exemple, cette tortue qu'on voit ici a eu bien de la chance. Après une convalescence de quelques semaines dans notre centre, elle va être relâchée tout à l'heure. L'équipe soigne non seulement les tortues blessées, mais elle doit aussi faire un travail administratif important. Prendre des photos qui seront répertoriées, baguer les animaux afin de pouvoir les identifier et faire des recherches. Nous sommes fiers du travail accompli.
Écoutez encore une fois l'enregistrement.
Document A. Ce matin, Bernard, un vétérinaire pas comme les autres, est appelé pour un heureux événement. Un bébé tortue vient de naître. Il s'agit d'une cistude, une petite tortue qui vit dans nos eaux ici, dans le Gard. Alors vous voyez, à peine sont-elles sorties de leur œuf qu'elles essaient de se mettre à l'abri. C'est l'instinct qui leur dit ça, de se protéger d'un prédateur éventuel. Mais leur carapace n'est pas encore dure. Ainsi, dans la nature, sur 1000 pondus, un seul parvient à l'âge adulte et la cistude est une espèce en voie de disparition. Le rôle de Bernard est d'aider cette jeune tortue à survivre. Elle va passer quelques temps ici, au refuge Tortue Passion de Toulon. Document B.
Bienvenue à la Maison de la pêche de Strasbourg, en Alsace. Je vais vous parler de la tortue de Floride. Cette espèce est classée nuisible. Elle mange de petits invertébrés et empêche d'autres tortues de se développer. Surtout, elle n'a rien à craindre car elle n'est pas chassée par d'autres animaux. En fait, souvent, certains vendeurs omettent de dire que cet animal domestique, importé d'Amérique, va considérablement grandir. Les gens qui ne peuvent pas s'en occuper les relâchent alors dans la nature, c'est un problème. Si vous ne pouvez pas vous occuper de votre tortue, il faut la donner à un centre de récupération. On ne lui fera pas de mal, mais elle passera le reste de ses jours dans un grand bassin, d'où elle ne risque pas de s'enfuir pour nuire à d'autres animaux.
Document C. Cette année, notre centre, l'aquarium de Cherbourg, a dû faire face à une situation pour le moins inhabituelle. En quelques semaines, nous avons dû accueillir un nombre anormalement élevé de tortues accidentées qui arrivaient les unes après les autres. Il s'agit souvent de tortues de mer heurtées par une hélice de bateau. Par exemple, cette tortue qu'on voit ici a eu bien de la chance. Après une convalescence de quelques semaines dans notre centre, elle va être relâchée tout à l'heure. L'équipe soigne non seulement les tortues blessées, mais elle doit aussi faire un travail administratif important. Prendre des photos qui seront répertoriées, baguer les animaux afin de pouvoir les identifier et faire des recherches. Nous sommes fiers du travail accompli.
Exercice 2. Lisez attentivement la consigne et les questions concernant le document numéro 1. Écoutez le document numéro 1.
Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Brice-Lalanne et je suis nutritionniste chez Medino.
Bonjour, je m'appelle Erwan Saumon et je travaille aussi chez Medino. Aujourd'hui, Amandine et moi, nous allons vous parler du développement d'une recette d'aliments pour bébés. Ce pourrait être, par exemple,
jardinière bœuf ou compote pomme-poire, qui sont déjà des aliments classiques. Mais plus généralement, nous voudrions vous montrer comment on conçoit un produit destiné aux tout-petits. Alors au départ, avant de penser aux détails de la recette, l'idée « produit » naît au cours de nombreux échanges au sein des équipes marketing et des équipes recherche et développement. Cela peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Et lorsque l'idée du produit est déjà bien définie, avec mon équipe, nous émettons des recommandations nutritionnelles. En tant que nutritionniste, notre rôle consiste à veiller au respect des besoins nutritionnels des enfants qui sont très spécifiques et qui, en plus, évoluent au cours des 3 premières années de la vie. Un enfant de 6 mois n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant qui sait déjà marcher. Quand nous avons terminé, l'équipe d'Erwan prend le relais. Erwan, dites-nous comment vous procédez ensuite.
Alors pour nous, la première étape surprend généralement nos interlocuteurs. Elle consiste à saisir la recette proposée dans l'ordinateur. Ah oui, nous utilisons un logiciel conçu par des informaticiens spécialisés. Ce logiciel nous permet de vérifier que la recette ébauchée par l'équipe marketing correspond aux recommandations nutritionnelles d'Amandine, mais aussi aux normes légales qui sont en vigueur. Ces domaines ne sont pas notre spécialité et nous avons donc bien besoin de l'aide de l'informatique. Après, nous devons introduire des correctifs. Mais un ordinateur n'a jamais donné son goût à une recette et l'aspect le plus important de mon travail consiste à réaliser moi-même la recette dans la casserole pour lui donner de la saveur, car comme on le sait très bien, le goût est très important chez Medino.
Et c'est d'autant plus important de notre point de vue de nutritionniste que l'enfant est à un moment où il a tout à apprendre en termes de découverte alimentaire et d'initiation au plaisir gustatif. Cela va le marquer pour le reste de sa vie. Il ne faut jamais l'oublier.
Écoutez encore une fois le document numéro 1.
Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Brice-Lalanne et je suis nutritionniste chez Medino.
Bonjour, je m'appelle Erwan Saumon et je travaille aussi chez Medino. Aujourd'hui, Amandine et moi, nous allons vous parler du développement d'une recette d'aliments pour bébé. Ce pourrait être, par exemple,
jardinière bœuf ou compote pomme-poire, qui sont déjà des aliments classiques. Mais plus généralement, nous voudrions vous montrer comment on conçoit un produit destiné aux tout-petits. Alors au départ, avant de penser aux détails de la recette, l'idée « produit » naît au cours de nombreux échanges au sein des équipes marketing et des équipes recherche et développement. Cela peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Et lorsque l'idée du produit est déjà bien définie, avec mon équipe, nous émettons des recommandations nutritionnelles. En tant que nutritionniste, notre rôle consiste à veiller au respect des besoins nutritionnels des enfants, qui sont très spécifiques et qui, en plus, évoluent au cours des 3 premières années de la vie. Un enfant de 6 mois n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant qui sait déjà marcher. Quand nous avons terminé, l'équipe d'Erwan prend le relais. Erwan, dites-nous comment vous procédez ensuite.
Alors pour nous, la première étape surprend généralement nos interlocuteurs. Elle consiste à saisir la recette proposée dans l'ordinateur. Ah oui, nous utilisons un logiciel conçu par des informaticiens spécialisés. Ce logiciel nous permet de vérifier que la recette ébauchée par l'équipe marketing correspond aux recommandations nutritionnelles d'Amandine, mais aussi aux normes légales qui sont en vigueur. Ces domaines ne sont pas notre spécialité, et nous avons donc bien besoin de l'aide de l'informatique. Après, nous devons introduire des correctifs. Mais un ordinateur n'a jamais donné son goût à une recette, et l'aspect le plus important de mon travail consiste à réaliser moi-même la recette dans la casserole pour lui donner de la saveur, car comme on le sait très bien, le goût est très important chez Medino.
Et c'est d'autant plus important de notre point de vue de nutritionniste que l'enfant est à un moment où il a tout à apprendre en termes de découverte alimentaire et d'initiation au plaisir gustatif. Cela va le marquer pour le reste de sa vie. Il ne faut jamais l'oublier.
Lisez les questions concernant le document numéro 2. Écoutez le document numéro 2.
Automne 1984. Dans sa maison d'Auteuil en Normandie, une femme écrit. Cette femme est toute seule dans le noir. Déjà à ce moment-là, elle perdait la vue. Alors, elle avait emménagé au premier étage d'Auteuil avec sa vieille machine à écrire. Elle lisait avec une grande difficulté, et pourtant au quotidien on oubliait tous ses problèmes parce qu'elle avait ce regard extrêmement vif. Mais, en fait, elle ne voyait presque plus rien. Malgré cette difficulté, après des mois de travail, elle a mis la dernière touche à son dernier livre, qui avait déjà un titre, « Adieu Volodia ». C'était un livre sur la vie d'une famille juive une bonne vingtaine d'années avant la Seconde Guerre mondiale. Les familles qui se sont échappées d'Ukraine et de Pologne essaient de s'intégrer en France, d'oublier la peur, de vivre, de travailler. Elles vont revivre la montée du nazisme, le retour de la peur. Comme elle le disait elle-même, elle est tombée sur un truc qui en entraînait un autre, et c'était parti. C'était comme si elle avait trouvé un bout de fil qui dépassait d'une pelote de laine. Elle s'est mise à tirer dessus, et du coup, l'angoisse de la page blanche, ma mère n'en a pas beaucoup souffert. Et ça a été une de ses très très grandes fiertés. Peut-être plus grande encore qu'un Oscar ou que des millions d'entrées au box-office. Aujourd'hui, elle est souvent considérée comme la première actrice française à avoir obtenu en 1960 l'Oscar de la meilleure actrice. Mais elle voulait être considérée aussi comme un écrivain et elle a réalisé son rêve. Il faut dire que c'était une femme de caractère et qui n'était pas toujours commode. À Auteuil, nous devions marcher à la baguette, nous. Mais aussi son éditeur qui venait régulièrement pour travailler avec elle et tout un cercle d'amis de la famille qui passait aussi beaucoup de temps avec nous. Auteuil était une grande villa, une sorte de gentilhommière. C'était la maison qu'elle n'avait jamais eue dans son enfance et du coup, chaque week-end, la maison était le lieu d'un grand rendez-vous durant lequel elle était la patronne. Et pour les habitués d'Auteuil, la grande maison de Normandie aurait été cette maison de famille où l'on vient dans les moments de grand bonheur ou de grand malheur, comme dans ses livres, les livres de Simone Signoret.
Écoutez encore une fois le document numéro 2.
Automne 1984. Dans sa maison d'Auteuil en Normandie, une femme écrit. Cette femme est toute seule dans le noir. Déjà à ce moment-là, elle perdait la vue. Alors, elle avait emménagé au premier étage d'Auteuil avec sa vieille machine à écrire. Elle lisait avec une grande difficulté, et pourtant au quotidien, on oubliait tous ses problèmes, parce qu'elle avait ce regard extrêmement vif. Mais, en fait, elle ne voyait presque plus rien. Malgré cette difficulté, après des mois de travail, elle a mis la dernière touche à son dernier livre, qui avait déjà un titre, « Adieu Volodia ». C'était un livre sur la vie d'une famille juive une bonne vingtaine d'années avant la Seconde Guerre mondiale. Les familles qui se sont échappées d'Ukraine et de Pologne essaient de s'intégrer en France, d'oublier la peur, de vivre, de travailler. Elles vont revivre la montée du nazisme, le retour de la peur. Comme elle le disait elle-même, elle est tombée sur un truc qui en entraînait un autre, et c'était parti. C'était comme si elle avait trouvé un bout de fil qui dépassait d'une pelote de laine. Elle s'est mise à tirer dessus, et du coup, l'angoisse de la page blanche, ma mère n'en a pas beaucoup souffert. Et ça a été une de ses très très grandes fiertés. Peut-être plus grande encore qu'un Oscar ou que des millions d'entrées au box-office. Aujourd'hui, elle est souvent considérée comme la première actrice française à avoir obtenu en 1960 l'Oscar de la meilleure actrice. Mais elle voulait être considérée aussi comme un écrivain et elle a réalisé son rêve. Il faut dire que c'était une femme de caractère et qui n'était pas toujours commode. À Auteuil, nous devions marcher à la baguette, nous. Mais aussi son éditeur qui venait régulièrement pour travailler avec elle et tout un cercle d'amis de la famille qui passait aussi beaucoup de temps avec nous. Auteuil était une grande villa, une sorte de gentilhommière. C'était la maison qu'elle n'avait jamais eue dans son enfance et du coup, chaque week-end, la maison était le lieu d'un grand rendez-vous durant lequel elle était la patronne. Et pour les habitués d'Auteuil, la grande maison de Normandie aurait été cette maison de famille où l'on vient dans les moments de grand bonheur ou de grand malheur, comme dans ses livres, les livres de Simone Signoret.
Exercice 3. Lisez attentivement la consigne et l'exercice qui la suit.
Chaque semaine, nous allons nous intéresser à l'actualité de la bande dessinée, la parution d'un livre, l'ouverture d'un musée ou d'une exposition. Aujourd'hui, avec Viviane Léoni, je voudrais vous parler d'une exposition qui vient d'arriver à Paris et qui va traverser différents pays d'Europe. Le titre que vous avez choisi pour ce projet, c'est « L'Europe se dessine ».
Oui, le titre plaît à beaucoup de monde. Il s'agit d'un jeu de mots. D'une part, l'Europe est le thème qui a été proposé à 50 auteurs de bandes dessinées issues des différents pays de l'Union européenne. D'autre part, l'Europe est encore en construction, elle continue à se dessiner, à s'esquisser, non seulement à travers des décisions politiques, mais aussi à travers des collaborations scientifiques, techniques ou culturelles.
Pourriez-vous dire quelles sont les créations qui vous ont le plus marqué ?
Oh, je ne sais pas, moi. La première image qui me vient à l'esprit, c'est sans doute Iris, un personnage créé par le français Charles Berberian. Nous avons utilisé ce personnage comme une sorte de fil conducteur pour le projet. Iris est une jeune étudiante en architecture. Elle a 19 ans et elle entreprend un voyage à travers l'Europe pour photographier différents sites architecturaux qui témoignent d'une histoire commune et différente à la fois. Ce voyage est également l'occasion de rencontres et de découvertes au quotidien, et une belle manière de communiquer sur l'identité européenne.
En préparant l'émission, vous m'avez dit que lorsqu'on vous a parlé de ce projet, au départ, vous avez éprouvé un sentiment d'attirance, mais aussi de méfiance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu ?
Les expositions institutionnelles font toujours un peu peur. Il s'agit parfois de projets qui reposent sur un script très contraignant, ce qui empêche les artistes d'exprimer tout leur talent. Il fallait donc veiller au choix des auteurs, contacter des personnes venues de différents horizons et faire une place à la jeune génération. On a aussi cherché des auteurs vraiment créatifs et on a essayé de faire en sorte que chacun se sente libre de revisiter l'Europe à sa façon.
Le projet a également une dimension politique.
Oui. L'idée de départ, c'était de donner un visage à l'Europe avec un peu d'humour, un peu de dérision, un peu de réalisme. Surtout, il nous a semblé que la BD était un média qui permettait d'aborder l'Europe de façon très concrète.
Merci pour votre témoignage. La semaine prochaine est importante dans le monde de la bande dessinée, puisque nous assisterons ensemble à l'ouverture du Festival d'Angoulême. Alors à bientôt!
Écoutez encore une fois l'enregistrement.
Chaque semaine, nous allons nous intéresser à l'actualité de la bande dessinée, la parution d'un livre, l'ouverture d'un musée ou d'une exposition. Aujourd'hui, avec Viviane Léoni, je voudrais vous parler d'une exposition qui vient d'arriver à Paris et qui va traverser différents pays d'Europe. Le titre que vous avez choisi pour ce projet, c'est « L'Europe se dessine ».
Oui, le titre plaît à beaucoup de monde. Il s'agit d'un jeu de mots. D'une part, l'Europe est le thème qui a été proposé à 50 auteurs de bandes dessinées issues des différents pays de l'Union européenne. D'autre part, l'Europe est encore en construction, elle continue à se dessiner, à s'esquisser, non seulement à travers des décisions politiques, mais aussi à travers des collaborations scientifiques, techniques ou culturelles.
Pourriez-vous dire quelles sont les créations qui vous ont le plus marqué ?
Oh, je ne sais pas, moi. La première image qui me vient à l'esprit, c'est sans doute Iris, un personnage créé par le français Charles Berberian. Nous avons utilisé ce personnage comme une sorte de fil conducteur pour le projet. Iris est une jeune étudiante en architecture. Elle a 19 ans et elle entreprend un voyage à travers l'Europe pour photographier différents sites architecturaux qui témoignent d'une histoire commune et différente à la fois. Ce voyage est également l'occasion de rencontres et de découvertes au quotidien, et une belle manière de communiquer sur l'identité européenne.
En préparant l'émission, vous m'avez dit que lorsqu'on vous a parlé de ce projet, au départ, vous avez éprouvé un sentiment d'attirance, mais aussi de méfiance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu ?
Les expositions institutionnelles font toujours un peu peur. Il s'agit parfois de projets qui reposent sur un script très contraignant, ce qui empêche les artistes d'exprimer tout leur talent. Il fallait donc veiller au choix des auteurs, contacter des personnes venues de différents horizons et faire une place à la jeune génération. On a aussi cherché des auteurs vraiment créatifs et on a essayé de faire en sorte que chacun se sente libre de revisiter l'Europe à sa façon.
Le projet a également une dimension politique.
Oui. L'idée de départ, c'était de donner un visage à l'Europe avec un peu d'humour, un peu de dérision, un peu de réalisme. Surtout, il nous a semblé que la BD était un média qui permettait d'aborder l'Europe de façon très concrète.
Merci pour votre témoignage. La semaine prochaine est importante dans le monde de la bande dessinée, puisque nous assisterons ensemble à l'ouverture du Festival d'Angoulême. Alors, à bientôt!
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi.